Rita sur Radio Grand Ciel, une émission préparée et présentée par Elisabeth Couget en collaboration avec Christine Afota. Bonjour à tous et buenos dias Christine.
Buenos dias Elisabeth.
Aujourd'hui c'est à Madrid, dans la capitale espagnole, que nous irons nous promener.
Et on parlera d'abord de son histoire.
Oui, selon ses vestiges archéologiques, la région fut habitée dès l'âge de pierre. Mais l'histoire de Madrid ne commence qu'en 852 après Jésus-Christ, quand les Maures construisent une forteresse au bord du rio Manzanares. Une communauté se développe autour de la forteresse et deviendra la capitale du pays, qui compte pourtant, à cette époque, des cités autrement plus anciennes.
Comme par exemple Cadix, fondée plus de 2000 ans plus tôt. Mais au fait, Elisabeth, que faisaient donc les Maures là-bas?
Eh bien, tout simplement, une armée arabe et de berbères venue d'Afrique du Nord débarque à Gibraltar et conquiert en quelques années la majeure partie de la péninsule ibérique.
Mais d'où vient cette appellation de Maures?
Eh bien, du latin Maurus, qui veut dire africain. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, les Romains nommaient ainsi les berbères qui ont conquis l'Espagne.
Et à part les Maures, y avait-il d'autres habitants dans cette région?
Oui, au nord se trouvaient des Visigoths avec Tolède comme capitale, et c'est par crainte d'eux que les Maures ont fortifié ce qu'allait devenir Madrid par la suite.
Et des chrétiens?
Eh bien, il y avait des chrétiens, bien sûr, en Navarre, en Castille, en Aragon, d'où ils vont entreprendre la reconquête des territoires contrôlés par les musulmans. Assez timidement d'ailleurs, mais dès 1083, Madrid est libérée. Seulement après l'effervescence des batailles, la ville va tomber dans une sorte de torpeur. Les souverains espagnols y offrent des privilèges aux fondateurs des monastères et aux différentes confréries. Et à la fin du XIIe siècle, on peut y compter jusqu'à 13 églises.
Et on y trouve encore beaucoup de forêts, et Madrid est un paradis pour les chasseurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le symbole de la ville, c'est toujours un ours, humant, respirant, un arbousier.
Voilà. Alors à ce moment-là, nous sommes déjà au XVe siècle. Le roi Henri IV dit l'impuissant...
Pas le nôtre. Hein.
Ah non, pas le nôtre. L'impuissant, réputé pour sa laideur et son incompétence politique, là, est séduit par Madrid. S'y installe surtout à cause de la chasse, mais c'est sa demi-sœur, Isabelle, et son mari Ferdinand d'Aragon, dites les futurs rois catholiques qui seront ses successeurs.
Ah oui. Et je crois que leur règne aura une influence majeure sur l'histoire espagnole.
Oui, d'abord, ils vont achever la reconquête de l'Espagne. Au fait, Christine, tu connais la couleur Isabelle?
Non, oui, il me semble que c'est une sorte de jaune, un peu couleur de certains chevaux, non?
Oui, c'est ça. En fait, quand Isabelle la catholique a pris le pouvoir, elle a décidé de libérer toute l'Espagne de l'occupation mauresque. Elle aurait, paraît-il, déclaré de ne pas changer de sous-vêtements tant qu'il resterait un seul mort sur le sol espagnol. Et comme la reconquête a pris un certain temps, les sous-vêtements de la reine Isabelle ont eu le temps de jaunir.
Ah là là, voilà. Il faut quand même dire qu'au Moyen-Âge, les sous-vêtements n'avaient rien à voir avec ceux de nos jours.
Non, absolument pas. Mais pour revenir au règne des rois catholiques, en plus de la fin de la reconquête et le financement du voyage d'exploration de Christophe Colomb jusqu'au Nouveau Monde, il faut rajouter une note bien sombre, car c'est à eux que la chrétienté doit l'instauration de l'Inquisition.
En effet, une page très noire de l'histoire espagnole. Et peux-tu nous parler de Jeanne de Castille, que l'histoire a surnommée Jeanne la Folle?
Eh bien, Jeanne de Castille était la fille d'Isabelle la catholique et qui deviendra folle d'amour de son mari, l'archiduc d'Autriche nommé Philippe le Beau, parce qu'il était vraiment très beau. Et c'est leur fils, Charles Quint, qui sera le futur empereur germanique et qui succédera au roi catholique sur le trône d'Espagne et sur toutes leurs possessions à travers le monde.
Et qui sera aussi l'ennemi juré de notre François Ier.
Et oui, qui ira jusqu'à l'emprisonner en Espagne après la bataille de Paris en 1525. Durant deux siècles, les Habsbourg dirigeront l'Espagne. Ensuite viendront les Bonaparte, les Bourbons, et ce qui va créer une relation tout à fait étroite avec la France.
Ce qui a bien sûr laissé sa marque en Espagne, mais surtout ce sont surtout les idées issues de la Révolution française.
Eh oui, tout à fait, parce qu'en 1812, Los Cortes rédigent une constitution libérale et 60 ans plus tard, une monarchie parlementaire va voir le jour.
ce qui n'apportera pas vraiment de stabilité au pays.
Non, pas vraiment. Quant à l'histoire du XXe siècle, c'est déjà bien connu. La guerre civile, Franco et sa dictature, puis la démocratie instaurée par le roi Juan Carlos au moment de la mort du général Franco. Et enfin, l'Espagne moderne dans l'Union européenne que nous connaissons et qui fait partie de notre quotidien.
Je crois qu'il était important de feuilleter ensemble ce livre d'histoire de Madrid et de l'Espagne, à la fois pour mieux comprendre cette belle capitale.
Alors que nous allons découvrir dans les parties suivantes de notre émission et après une petite pause musicale en écoutant Paco Ibáñez.
En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
Dans notre émission Capital, nous découvrons Madrid aujourd'hui.
Allons dans l'ordre des choses et commençons donc par le Vieux Madrid.
Alors, qui s'est développé derrière l'Alcazar, c'est-à-dire la forteresse arabe du 9e siècle, le cœur du Vieux Madrid qui s'étend de la Puerta del Sol jusqu'à la place de la ville médiévale. Et c'est extrêmement riche en monuments.
La place devant la Puerta del Sol est très animée avec ses boutiques, ses cafés et il faut y admirer la statue équestre de Charles III.
Oui, alors allons-nous flâner jusqu'à la Plaza Mayor, une super place du XVIIIe siècle aménagée par les Autrichiens, c'est l'œuvre de Juan Gómez de la Mora. La place abrite sous ses arcades de nombreux cafés et de magasins d'artisanat. Si la place servit jadis de cadre à des exécutions ordonnées par l'Inquisition, désormais elle accueille des manifestations culturelles.
Et il y a aussi le Palacio de Santa Cruz, magnifique palais baroque qui abrite aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères et il se trouve tout près de la Plaza Mayor.
Et à quelques pas de là, on voit la Colegiata San Isidro qui était la cathédrale de Madrid jusqu'en 1993. Cette splendide église baroque est dédiée au saint patron de la capitale espagnole qui était un laboureur du XIIe siècle, fondateur d'une des confréries de Madrid. Et ne ratons pas une autre église tout près d'ici, la Basilica Pontificia de San Miguel, c'est un imposant édifice du XVIIIe siècle dont l'élégant intérieur baroque mérite une visite plus qu'approfondie.
Et ensuite, on n'a qu'à faire quelques pas pour rejoindre le fameux Mercado, marché, de San Miguel, dont la structure métallique date du XIXe siècle.
Alors après, sur le chemin du Palais Royal, arrêtez-vous un instant sur la Plaza de la Villa pour voir l'hôtel de ville. Dessiné en 1640 par le même Juan Gómez de la Mora, l'architecte de la Plaza Mayor, dont on a parlé un instant, et admirez aussi la magnifique Torre de los Luajanes, la plus ancienne construction de la place où François Ier aurait été emprisonné après sa défaite à Pavie.
Tout est perdu, fort l'honneur.
La tour de style plateresque était construite par le cardinal Cisneros,
dont le palais, juste à côté, est relié à l'hôtel de ville par un parc. Ensuite, pourquoi ne pas faire un tour à la Plaza Santa Ana dans le Vieux Madrid, une belle place piétonne.
Oui, effectivement, à quelques pâtés de maison de la Puerta del Sol, cette place est à ne pas manquer. Pour l'aménager, Joseph Bonaparte, roi d'Espagne à ce moment-là, a fait démolir un couvent carmélite du XVIe siècle dont la place porte toujours son nom. La statue de Federico García Lorca orne une des extrémités de la place. Cette statue a été érigée en 1998 pour célébrer le centenaire de la naissance du poète.
Oui, et on peut voir encore d'autres choses sur cette place, comme le théâtre espagnol, des hôtels, des cafés, des restaurants. Tout cela rend cette place très animée.
Exactement, tout pour le sens des, pour le plaisir des sens. Hein. Je crois qu'avant d'atteindre le Palacio Real, on peut encore admirer d'autres monuments, comme l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, dans un bâtiment construit au XVIIe siècle, ou bien le Monasterio de las Descalzas Reales, magnifique édifice religieux et un des rares exemples de l'architecture du XVIe siècle à avoir survécu dans la capitale espagnole.
À l'origine, c'est un ancien palais royal devenu couvent des Clarisses où les dames de la cour aimaient ou peut-être devaient se retirer à l'occasion.
Ça dépendait de voilà ce qu'on a décidé pour l'heure, hein, pour elle. Alors voilà, voilà ce qui explique l'extrême richesse de la décoration et la magnifique collection de tapisseries et de tableaux peints par Bruegel, Le Titien, Zurbaran, Murillo, Ribera, etc., etc.
Et après cela, pour faire un peu de lèche-vitrine, il n'y a rien de mieux que de se promener sur la calle, la rue des Preciados.
Alors, c'est une superbe rue qui parle là toujours de la Puerta del Sol et porte le nom des deux frères Preciados qui, au XVIIe siècle, avaient la charge du contrôle officiel des poids et des mesures utilisés pour le commerce.
Que de choses à voir. Ah oui. Et dis-moi, Elisabeth, avant d'aller enfin au Palais Royal, que pourrions-nous visiter encore?
Eh bien, il y a le Parlement espagnol installé dans un couvent du XVIe siècle, ouvert au public seulement chaque début décembre de l'année. Traverser aussi la Plaza de España, qui descend en pente douce vers le Palacio Real. Cette place est ornée par l'impressionnant monument dédié à Cervantes.
Et sous la statue du célèbre écrivain Cervantes, on peut voir Don Quixote, qui chevauche Rocinante, et à ses côtés, Sancho Panza, tout rond sur son âne.
Et à sa gauche, Dulcinée, la paysanne, dont le chevalier fit la dame de ses pensées. Et nous voici enfin arrivés au palais royal, qui se dresse sur une hauteur dominant le Rio Manzanares, à l'emplacement de la fameuse forteresse construite par les morts et qui a été conquise par les chrétiens en 1083.
Et c'est donc à la place de cette forteresse que Philippe V a fait construire ce palais grandiose.
Et oui, au XVIIIe siècle, dont la réalisation a pris 26 ans, et ce Palacio Real restera résidence royale jusqu'à l'abdication d'Alphonse XIII en 1931.
Il est dessiné et il a été construit par l'architecte italien Battista Sacchetti en granit et en calcaire blanc.
Alors, la construction forme un quadrilatère de 140 mètres de chaque côté, le tout de style néoclassique avec quelques éléments baroques. La façade principale donne sur la magnifique Plaza de Armas où chaque premier
place
mercredi
d'armes.
Du mois, oui, c'est la place d'armes, on peut assister à la relève de la garde.
Et c'est de cette place que l'on accède à l'entrée principale du palais.
Et aussi à la fameuse pharmacie. Et à l'armurerie royale.
Tu peux nous en dire un peu plus, pharmacie, armurerie?
Oui, ce sont deux endroits à visiter. La pharmacia real, comme on l'appelait, fondée par Philippe II en 1594, est splendide. Elle conserve ses tiroirs destinés aux herbes médicinales et les bocaux de faïence de Talavera et les remèdes prescrits à la famille royale. Quant à l'armurerie, elle est bien plus récente, car celle de l'époque Philippe II a brûlé. La nouvelle, elle possède tout de même des pièces exceptionnelles, comme par exemple les armures de Charles Quint.
Après ces deux visites très intéressantes, on va peut-être pénétrer dans le palais. Alors, cette fois par le grand escalier.
Alors, ça se trouve près de la statue du roi Charles III, qui se trouve, et ce bel escalier d'apparat, en marbre de Tolède de 72 marches qui donne immédiatement le ton au décor intérieur du palais.
Et c'est une fresque de Tiepolo qui nous accueille en arrivant au premier étage dans la belle salle des hallebardiers que jouxte la salle des colonnes ornée de 5 superbes tapisseries.
Alors réalisée d'après les cartons de Raphaël, mais la salle des colonnes a encore une autre particularité, car elle a été le théâtre de la signature du traité d'adhésion de l'Espagne à la communauté européenne.
Le plafond de la salle du trône, tout à côté, est aussi l'œuvre de Tiepolo. Et dans la salle, on voit aussi deux trônes qui n'ont été réalisés qu'en 1977, mais les deux lions qui en gardent l'accès sont bien plus anciens, puisqu'ils datent de 1651.
Alors, la salle du trône sert lors des cérémonies comme pour l'audience royale du Día de la Hispanidad, c'est la fête nationale des Espagnols, célébrée le 12 octobre, où le corps diplomatique en poste à Madrid est reçu par le roi d'Espagne.
Je crois qu'il est tellement riche ce palais qu'il est impossible de le décrire en détail, non ?
Ah oui, par manque de temps. Mais bien sûr, il faut visiter les appartements de Charles III et découvrir en particularité la Sala de Porcelana, dont les murs et les plafonds sont entièrement couvert de porcelaine de la manufacture de Buen Retiro. Et il y a aussi l'immense salle à manger avec une table aussi assez longue pour accueillir jusqu'à 145 convives. Oula. Et les murs sont décorés d'immenses tapisseries de Bruxelles.
Et peut-être un mot aussi sur la... Il faut absolument voir la très belle chapelle royale, bien sûr. Et maintenant, sortons du palais pour découvrir les alentours.
Alors, commençons par la Plaza de Oriente, de l'Est, aménagée par Joseph Bonaparte. Puis, visitons l'Opéra de Madrid, de style romantique. Ensuite, la cathédrale Nuestra Señora de la Almudena et le Campo del Moro, un parc bien agréable où en 1091 bivouaquait encore l'armée des morts face à l'armée des chrétiens.
Elisabeth, puisque tu parles des morts, dis-moi, que restait-il de l'héritage mauresque ?
En fait, pas grand-chose, sinon le nom de la capitale, puisque Madrid vient du nom arabe Mayrit, et un petit pan de mur du 9e siècle, non loin de la cathédrale Almudena, mis à jour en 1953. La statue de la Vierge de la Almudena était trouvée au même endroit, mais en 1085, et elle est devenue la sainte patronne de la ville.
Que veut dire Almudena ?
Eh bien, c'est un mot arabe et qui désigne un rempart extérieur. Alors avant de quitter le Vieux Madrid, je vous conseille d'aller vous promener sur la Plaza de la Paja, la paille, ou découvrir le marché aux puces fondé au Moyen-Âge, que l'on appelle Erastro, qui attire toujours beaucoup, beaucoup de monde.
Et nous allons maintenant faire une courte pause musicale en écoutant Paco Ibáñez.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos.
Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado.
Juste avant d'écouter Paco Ibáñez, nous venions de découvrir le Vieux Madrid dans notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel. Et maintenant, allons voir le Madrid des Bourbons. Dans le temps, cette zone s'appelait El Prado, qui veut dire en espagnol la prairie. Les Bourbons s'y installent au XVIIIe siècle et vont créer le Super Parque del Retiro ou le Paseo del Prado.
Del Retiro, c'est-à-dire pour se retirer, pour faire retraite,
repos,
en fait.
C'est le repos,
oui, le repos.
C'est le repos, oui.
Et le Paseo, c'est une promenade.
Une promenade, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Et alors, donc, autour de ce Paseo, les Bourbons vont construire des palaces majestueux, ornés de fontaines, un arc de triomphe. L'ancien hôpital y est devenu le Museo del Prado, l'un des plus grands et plus riches musées du monde.
Le Paseo del Prado, à partir du XVIIIe siècle, a été aménagé comme une élégante promenade, formant une large avenue bordée d'arbres.
Oui, on peut appeler ce quartier celui des musées.
Et c'est aussi celui de monuments grandioses datant de l'époque de Charles III.
Apparemment, à l'époque de Charles III, il y avait beaucoup de belles constructions à Madrid. Comme par exemple la Puerta de Alcalá, dont l'éclairage de nuit rend cette ancienne porte de la ville en granit particulièrement belle et dont l'arche principale offre une perspective extraordinaire sur la ville. Il y a aussi la fontaine de Neptune ou encore la fontaine de Cibeles.
Ou Cybèle. Et qui était Cybèle?
Alors Cybèle est considérée comme la déesse de la fertilité, donnant son nom à la place qui l'entoure, où il faut visiter le Palacio de Comunicaciones, siège des services postaux, et ce palais abrite aussi la Casa de América, la maison de la culture latino-américaine.
Et non loin de là, a visité aussi la Banque d'Espagne. Pas pour eux. Pas parce que c'est une banque, mais pour ses fabuleux vitraux qui représentent des scènes mythologiques.
Et oui, et un très grand escalier aussi en marbre de Carrare dans cette banque qui est mise en valeur en particulier par ces mêmes vitraux. Cette banque est un musée, on y trouve une vaste salle de style art déco, une bibliothèque somptueuse et une riche collection de tapisseries, des gravures réalisées par Goya, etc., etc.
Et l'impressionnante bourse de commerce n'est pas non plus à négliger lors de votre voyage à Madrid. Et il y a bien sûr de nombreuses églises qui vous attendent.
Oui, non loin de la bourse par exemple, il y a l'Iglesia San José, l'église carmélite fondée en 1605, reconstruite plusieurs fois, dont en 1908 par décision d'Alphonse XIII qui permettait les travaux de la fameuse Gran Villa. Alors, c'est Gran Villa qui est le résultat d'un projet d'urbanisme pour la classe moyenne espagnole. En rasant les quartiers pauvres, les architectes repoussaient les limites de Madrid et ils créaient la Gran Villa et ils laissèrent un large aperçu des styles du début du XXe siècle.
Et nous voici arrivés au musée de ce quartier, dont le plus intéressant, je pense, est le musée des arts décoratifs qui porte le nom de musée Thyssen-Bornemisza.
Alors, la collection de peintures de ce musée est considérée comme la réunion d'œuvres d'art privées la plus importante au monde, depuis les primitifs italiens et flamands jusqu'au mouvement pictural moderne. La collection se compose de quelques 800 tableaux, des chefs-d'œuvre de Titien, Goya, Van Gogh, Picasso, etc. Installés depuis 1992 dans le palais Villa Hermosa, palais néoclassique du XVIIIe siècle, le musée Thyssen-Bornemisza s'est agrandi en 2004 pour abriter les 250 tableaux impressionnistes réunis par la baronne du même nom.
C'est ça. Et après tous ces beaux tableaux, allons au théâtre. Commençons par l'opérette.
Oui, alors c'est une descendante directe de l'opéra comique italien. Il s'agit de la zarzuela.
C'est une danse aussi.
Oui,
ça.
Tout à fait. À l'origine, un divertissement royal, puis le petit peuple s'est l'approprié et devient l'art dramatique caractéristique de Madrid, où dialogue, danse, chant alternent. Au XIXe siècle, la zarzuela avait un tel succès qu'on lui a construit carrément un théâtre, Teatro de Zarzuela.
Après le théâtre, allons à l'exceptionnel musée du Prado, tellement connu.
Alors cet ancien musée royal possède la plus importante collection de peintures espagnoles, mais les tableaux italiens et flamands sont aussi très très bien représentés. Alors, parmi les plus célèbres œuvres présentes, je ne cite que les Trois Grâces de Rubens, les fameuses Maja Vestida et Maja Desnuda de Goya, l'Adoration des Bergers de Greco, sans parler de Velázquez, Ribera, etc. Et peut-être de tes préférés,
les Ménines de Velázquez, avec la petite infante éclairée et les autres personnages dans l'ombre très célèbres. Mais il y a aussi des peintres modernes, bien sûr, le Guernica de Picasso. Mais on va en parler, voilà. En fait, les collections sont réparties par école, ce qui permet de s'y retrouver assez facilement malgré la taille du musée et l'extraordinaire richesse de sa collection.
Alors, on ne pourra pas parler de tous les nombreux musées de Madrid, mais un mot peut-être, le Centro de Arte Reina Sofía, donc le centre d'art de la reine Sophie, installé dans l'ancien hôpital général de Madrid où Picasso, Miro, Dalí ou Solana sont en bonne place, donc les peintres modernes.
Alors c'est donc là que se trouve le Guernica, le célèbre Guernica de Picasso.
Oui, exactement. Et sa présence dans le musée de la reine Sophie est un symbole de la démocratie espagnole. On a un peu de temps, on peut en parler un petit peu.
Oui, Elisabeth, parce que c'est quand même un tableau qui a une très, très importante...
Grande importance.
Donc, peux-tu nous parler un peu de Guernica, justement?
Oui, absolument, puisqu'on a un tout petit peu de temps, on le permet. Ce tableau représente l'horreur. Peint pour l'exposition internationale de Paris par Picasso et qui représente la ville de Guernica au Pays Basque, près de Bilbao, et l'horreur que cette ville a subie.
Et qui symbolise l'horreur de toutes les guerres aussi.
Absolument. Donc, ça se passait en 1937, où l'aviation allemande a détruit cette ville. Picasso exprime toute sa révolte après le bombardement meurtrier de la ville basque, qui s'appelait en fait Guernica Lumo, perpétré par les pilotes allemandes au service des nationalistes. Et Picasso refusa que le tableau soit rapatrié en Espagne avant que ne se rétablisse la démocratie. L'œuvre resta donc au Musée d'art moderne de New York jusqu'en 1981.
Tout le monde a ce tableau en tête. Et en sortant de ce grand musée, je vous suggère une belle promenade dans l'ancien jardin royal, non loin de la Puerta de Alcalá.
Où plus de 100 hectares de verdure attendent les madrinelles, et la visite du palacio du même nom et de nombreux tableaux qui y sont exposés. Donc, il y a peut-être d'autres jardins?
Oui, bien sûr, comme par exemple le Jardin botanique royal au sud du Prado, qui est rempli de plantes, d'arbres, d'espèces rares.
Voilà, et pour finir notre découverte de la capitale espagnole, parlons de l'axe principal de Madrid moderne, le Paseo de la Castellana, où depuis le 19e siècle, l'aristocratie madrilène s'est fait construire de très très élégants hôtels particuliers.
Oui, ce quartier est connu aussi pour ses boutiques de luxe, et on y trouve le joli Paseo de Recoletos.
Alors, comme le temps presse et qu'on ne peut plus vous parler des restaurants, vous serez donc obligé de trouver ça tout seul.
Pour ne pas mourir de faim, mais il y a tellement de délicieux tapas. Ah oui. Alors, buen appetito.
Oui, et buen viaje à Madrid, et hasta luego, jusqu'à une prochaine mission, je vais y arriver à le dire, Capitale sur Radio Grand Ciel. Merci de nous avoir écoutés.
La señorita del abanico va por el puente del fresco río. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. Los caballeros con su levita miran el puente sin barandilla. La señorita del abanico y los volantes busca marido. La señorita del abanico y los volantes busca marido. Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde. Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde. Los grillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. La señorita del abanico va por el puente del fresco río.